Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, nous recevons maintenant Sophie Anfanen, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'information en ligne Les Jours, vous avez réalisé une enquête sur les SUV, les Sport Utility Vehicles. Ce sont des grosses voitures qui dominent le marché automobile, hein, comme la Peugeot 3008, la Renault Kadjar, on en a vu des pubs. Alors, tout le monde s'y est mis, ça représente 40% du marché en France. Et en Europe, vous dites que ces ventes ont été multipliées par 4 en 10 ans. Alors, ça paraît énorme et on a envie de comprendre pourquoi.
Tout d'abord, c'était un segment qui n'existait pas. Enfin, c'est des voitures qui n'existaient pas auparavant. En Europe, on avait le monospace, l'espace, le scénic, des choses comme ça, très familiales, et le 4x4 qui était segment luxe ou segment sport ou segment vraiment utilitaire montagne. Et il y a une sorte de nouvelle voiture qui s'est inventée qui traverse tous les segments automobiles, vous voyez, donc les petites citadines, les berlines de ville, etc. C'est ça, les segments. Et on a transformé en fait ces voitures en pseudo 4x4, en les rehaussant, en les faisant grossir, en leur mettant des bouts de plastique par-dessus aussi pour faire sport, en les alourdissant beaucoup. Et on a inventé le Sport Utility Vehicle, qui est une sorte de 4x4 qui n'est pas vraiment 4x4, de gros monospace qui prend plus de place qu'un monospace pour un usage identique. On a inventé cette nouveau segment.
Mais pourquoi ? Donc la question, c'est pourquoi on a inventé ça et pourquoi ça se développe autant ?
On a inventé parce que les constructeurs déjà tout d'abord cherchaient l'après monospace. Le monospace plafonnait, c'était devenu une sorte de voiture un peu de papa, un peu vieillissante, et il fallait passer à autre chose. Et il y avait ce 4x4 qui commençait à marcher. C'est Nissan qui a commencé à faire un 4x4 un peu urbain avec le Qashqai, qui a marché à la surprise générale, une sorte de gros crapaud sur roue comme ça qui a cartonné, et tout le monde s'est engouffré sur ces grosses lignes très très agressives, etc. Et en fait, c'est rentré en phase avec un besoin de protection des automobilistes. Et en fait, ces voitures, c'est le phénomène cage à requin. On se met dans cette voiture pour se protéger du monde. Et du coup, c'est la surenchère par derrière avec des véhicules de plus en plus massifs, de plus en plus protecteurs des gens qui sont à l'intérieur, mais qui du coup peuvent devenir une menace pour les gens qui sont à l'extérieur.
Ouais, sauf que ces véhicules, ils ont quand même un gros défaut. C'est qu'ils consomment 10% de plus qu'une berline classique. Donc c'est quelque part une aberration écologique au moment où justement on veut réduire la pollution automobile.
Oui, c'est le point de départ de mon enquête. Hein. Je voyais ces véhicules circuler dans les villes, où c'est un non-sens complètement, mais aussi dans les campagnes. Et je me disais, mais pourquoi, etc. Et surtout, pourquoi dans un moment où on a quand même besoin de sobriété énergétique, et donc on pourrait s'attendre à ce que les véhicules soient petits, consomment peu, etc. En fait, c'est l'inverse qui se passe, parce qu'il y a ce besoin de protection, et parce que en fait la question écologique est complètement secondaire dans la décision d'acheter un véhicule. Du coup, on se retrouve avec des voitures qui effectivement sont, d'après l'Agence internationale pour l'énergie, quand même la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde depuis 2010. Et l'ensemble des institutions internationales, en France, le Haut Conseil pour le Climat, tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire que ces véhicules sont en train de compliquer la quête vers des déplacements sobres, et c'est un contresens absolument total.
Contresens qui est encouragé par les constructeurs, parce que vous citez ce chiffre de 3 milliards d'euros dépensés en communication pour ces SUV en France.
Oui, parce que c'est des véhicules extrêmement rentables. En fait, le SUV sont pour la plupart basés sur la plateforme, donc le châssis, de la berline équivalente. Donc on a des berlines qui sont des voitures normales, qui consomment normalement, etc. Et en fait, on les rehausse, on les fait grossir et on les vend 20 000 euros plus cher. Donc c'est extrêmement rentable. Les constructeurs dégagent des marges beaucoup plus importantes avec les SUV, parce qu'en plus, comme il y a une mode, comme il y a un effet design, un effet marketing, etc., les gens ont envie de les acheter. C'est des voitures qui font envie. Et donc, on met beaucoup d'argent dans la publicité, on dégage des grosses marges et on envahit les routes avec ces véhicules problématiques.
Et le souci, c'est que ces voitures, vous le dites, c'est une bombe à retardement quelque part. C'est-à-dire que demain, ce sont des gens qui les achèteront d'occasion et qui vont se retrouver piégés parce qu'ils devront consommer beaucoup, donc dépenser beaucoup pour l'essence, etc.
Oui, le cycle de vie d'une voiture, c'est à peu près 20 ans. Il y a 2, 3, 4 mains. Et du coup, aujourd'hui, ces voitures, elles roulent, elles sont neuves, etc. Mais elles vont se retrouver dans les campagnes ou chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont les acheter d'occasion.
Parce qu'il y aura que ça.
Il y aura plus que ça, en fait. Le marché est à 40% en France, mais bientôt 50, 60% de SUV en France. Donc, dans 10 ans, sur l'occasion, il y aura plus que ça. Et c'est des véhicules qui consomment plus, qui vont se prendre des malus, parce que dans 10 ans, on va dire, mais en fait, on n'en veut pas de ces voitures, c'est un vrai problème. Donc, elles vont se prendre des malus. Et les gens qui les ont achetées, tout simplement, parce puisqu'il n'y avait plus que ça en occasion, ils vont en souffrir. Et l'effet gilet jaune actuel de véhicules qui ont déjà 15-20 ans et qui polluent, etc., on va le retrouver dans 15-20 ans, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'action de l'État pour se dire, oh là, attention, on est dans quelque chose, on est en train d'enfermer le parc automobile dans quelque chose qui n'est pas sain. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est le plus impressionnant dans mon enquête, je m'y attendais pas, c'est qu'en fait, il n'y a personne pour défendre le SUV. Même chez les constructeurs, il n'y a pas grand monde pour le défendre. En fait, dès qu'on se pose un petit peu 5 minutes avec quelqu'un en disant, mais il n'y a pas un problème comme avec les SUV, c'est pas un gros problème. Et oui, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, les constructeurs eux-mêmes sont devenus SUV dépendants. Et ça leur pose énormément de soucis pour l'avenir.
Les constructeurs qui se trouvent aussi devant un mur, parce qu'il y a quand même des échéances. 1er janvier 2020, les émissions ne devront plus dépasser 80 grammes de CO2 par kilomètre, avec une amende de 95 euros par gramme dépassé. Donc ça va les handicaper, ces véhicules.
Oui, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que Peugeot, par exemple, PSA, est extrêmement SUV dépendant. Et la seule façon d'atteindre les objectifs, c'est des objectifs européens pour 2021, ensuite il y a d'autres objectifs encore plus durs pour 2030. Et en fait, la seule façon pour PSA, c'est de produire finalement encore plus de SUV, mais hybrides, qui vont réduire la moyenne des émissions de CO2, mais on aura encore plus de voitures grosses, et d'enlever les petits véhicules qui se vendent moins et qui se vendent moins cher. Donc on a une sorte de fuite en avant parce que PSA s'expose à une amende qui peut atteindre plusieurs centaines de millions d'euros, et il y a plusieurs autres constructeurs comme ça qui s'exposent à des grosses amendes parce que elles se sont mises un peu seules dans le piège du SUV, parce que c'est une voiture extrêmement rentable, et aussi parce qu'elles ont subi le contre-coup du Dieselgate, c'est-à-dire que les mêmes SUV roulant au diesel seraient rentrés dans les clous des objectifs pour 2021, mais comme tout le monde a abandonné le diesel à partir de 2015, ces véhicules roulent à l'essence majoritairement aujourd'hui, et l'essence émet beaucoup plus de CO2 que le diesel.
Alors, quid du projet de la mairie de Paris de faire payer le stationnement plus cher aux SUV, justement, aux grosses voitures ?
La mairie de Paris a identifié un problème. Les rues de Paris, comme de plein d'autres villes, sont pas gigantesques. À partir du moment où on a des véhicules qui grossissent et qui, en plus, n'arrivent plus à se garer.
Et qui polluent plus, de fait, puisqu'ils consomment plus.
Exactement. Et qui n'arrivent pas à se garer sur les 1m80 de large d'une place de stationnement normale. Et qui, dans les parkings souterrains, prennent deux places aussi. Donc, on a une vraie problématique. Donc, la mairie de Paris réfléchit à ça. Donc, elle cherche comme ça au poids, à la taille.
Mais c'est juste une idée ou c'est un projet qui avance et qui pourrait se concrétiser rapidement?
On sent que c'est un projet qui avance quand même et qui pourrait se concrétiser, alors clairement pas avant les municipales, probablement s'il y a un deuxième mandat de Anne Hidalgo dans le deuxième mandat. Paris n'est pas seul, Bruxelles, la région de Bruxelles pense aussi à un système équivalent, et la municipalité de Montréal aussi a commencé à parler d'une pénalisation des gros véhicules, notamment dans le centre-ville de Montréal, parce qu'ils ont en fait le même problème. En fait, toutes les villes dans le monde entier sont confrontées à la même problématique.
Bien, à suivre donc. Merci Sofian Fanen pour toutes ces explications, et pour ceux qui voudraient lire votre enquête en intégralité, bien je rappelle qu'on peut la trouver donc sur le site des jours, et je précise tout de même que c'est un site payant.